métropole. Marronnage, négritude, littérature, culture, musique, histoire, mémoire, Caraïbes, tout monde, relations, langue, créolité, chronique créole de métropole. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'auteur Patrick Chamoiseau. Auteur de nombreux ouvrages autour de la créolité, l'antillanité et la créolisation également. Patrick Chamoiseau est né le 3 décembre 1953 à Fort-de-France. C'est un écrivain français originaire de la Martinique. Auteur de romans, de contes, d'essais, théoricien de la créolité, il a également écrit pour le théâtre et le cinéma. Après des études de droit et d'économie sociale en France, il devient un travailleur social, d'abord dans l'Hexagone, puis en Martinique. Inspiré par l'ethnographie, il s'intéresse aux formes culturelles disparaissantes de son île natale, les jobbers du marché de Fort-de-France et les vieux conteurs. Et il redécouvre le dynamisme de sa première langue, le créole, langue qu'il a dû abandonner au moment de ses études primaires. Patrick Chamoiseau est connu pour la polyphonie de ses romans, pour y mélanger le français et le créole et pour mettre en abîme l'acte de l'écriture. Mais il a endossé bien d'autres rôles, tous dans la droite ligne de sa philosophie, la résistance par la narration à toutes sortes de définitions venant de l'autre. Écrire pour affirmer la créolité de l'être. Une narration qui sert à résister, à se formuler une identité indépendante afin d'éviter d'être décrit, raconté et imaginé uniquement par l'autre. La résistance discursive anime la plupart de ses écrits. Depuis la trilogie biographique Une enfance créole au roman Texaco, pour lequel le prix Goncourt lui a été décerné et qui met en scène la polyphonie de l'identité martiniquaise jusqu'aux essais politiques comme L'intraitable beauté du monde, écrit avec Édouard Glissant, ce père spirituel à qui il emprunte le concept de relation pour s'interroger sur le rapport d'une culture à son altérité interne aussi bien qu'externe.
L'éducation dont vous parlez dans votre livre « Chemin d'école », où vous faites un peu le procès de l'éducation nationale française qui impose une culture, qui impose une manière de parler, une manière d'être à un enfant. Et aujourd'hui, je me demande si, on n'en est pas encore là d'ailleurs, même en France, où l'éducation servirait en fait à avoir un métier plus tard, à réussir, mais pas forcément à aborder cette notion de vous avez plus tard parlé après de société multitransculturelle, mais l'autre, on n'apprend pas l'autre en fait. Voilà, c'est ça que ma question.
Oui, c'est-à-dire...
Comment apprendre l'autre dans un système éducatif? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le système éducatif
Bien sûr, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, après les décolonisations, en fait, il y a eu la conquête du monde par les colonialistes occidentaux qui ont imposé le modèle de l'État-nation. Ceux qui se sont décolonisés ont repris eux aussi le modèle de l'État-nation, avec chaque État-nation à sa vision historique, son récit communautaire, sa langue. Et tout ça, c'était transporté par les structures d'éducation et notamment par l'école. L'histoire de France, l'histoire de ceci, la langue de France, etc. Donc cette approche un petit peu auto-centrée s'est répandue dans le monde et ce que j'ai dénoncé, enfin que j'ai démontré ou décrit en tant d'enfance et chemin d'école, c'est simplement une école coloniale, c'est-à-dire quelqu'un qui est un maître d'école qui est persuadé que la langue française c'est la seule qui soit valable et que toutes les autres sont éliminées, à commencer par la langue créole, et que l'histoire française c'est celle-là qui est l'histoire, et que la civilisation française c'est la bonne civilisation. Enfin bon, c'était des logiques ethno-nationalo-centrées, quoi. Donc ces difficultés-là persistent encore, parce qu'on voit bien que comme nous sommes confrontés à un monde où tout est en relation, que les gens bougent, que les sociétés deviennent multitransculturelles, que les anciennes colonies viennent habiter dans la métropole, que les influences traversent les écans. Enfin bon, il y a une espèce de chaos monde qui se met en place. Et les vieilles centralités et les vieux absolus linguistiques, éducationnels, historiques, culturels, religieux sont en train de défaillir, ajoutant à cela le fait que les individus sont beaucoup plus libres de choisir leur langue, leur religion, leur cuisine, leur comportement, leur manière de se coiffer, etc., etc. Donc tout ça met à mal l'ancienne structure. Donc cette ancienne structure est un petit peu bousculée. C'est pourquoi on voit apparaître les fanatismes, les discours d'extrême droite qui veulent revenir aux absolus nationaux. Mais bon, le monde ne supporte plus d'absolu. Le monde ne voit que de la relation, des mélanges, des contacts. Donc il nous faut changer l'imaginaire et avoir un imaginaire de la relation. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important aujourd'hui de bien comprendre le phénomène relationnel qui est le plus déterminant dans le monde et de comprendre que ça suppose des politiques culturelles qui nous initient au phénomène relationnel et des systèmes d'éducation qui nous initient au système relationnel. Par exemple, dès l'école maternelle, plutôt que de rentrer dans la hiérarchisation des langues et d'expliquer aux enfants que telle langue, c'est ta langue, c'est ton colonne vertébrale, mais faire dès la maternelle que les enfants entendent presque toutes les langues du monde et qu'ils aient le désir, l'amour, qu'ils puissent apprécier les sonorités, les nuances, même s'ils ne les comprennent pas, mais qu'ils les entendent. Que pour créer en eux un imaginaire multilingue, pour sortir de l'imaginaire monolingue. Et tout le reste peut découler comme ça. On peut véritablement, dès la maternelle, ensuite dans les classes primaires, faire en sorte que les enfants comprennent qu'ils font partie d'un monde et que cette monde a une richesse. La richesse de ce monde, c'est la diversité des cultures, des langues, des approches, des symboles, des phénomènes religieux. Ils doivent connaître tout ça et comprendre que tout ça est en train de se rencontrer, de produire des synthèses, des hybridations, des oppositions. Donc qu'ils aient l'intelligence du monde. Et c'est dans cette intelligence du monde qu'ils pourront se construire sans ethnicisme, sans fanatisme, sans ostracisme et sans racisme. Et ça, effectivement, c'est un changement d'imaginaire.
Chamoiseau est hostile à l'idée des peuples d'hommes-tom rattachés à une république une et indivisible, car toujours à l'ombre de celle-ci. Il se dit administré français plutôt que français, et c'est pour cela qu'il refuse la Légion d'honneur. Pour l'auteur de La matière de l'absence, dans les cales des bateaux négriers a eu lieu une rupture. Chamoiseau considère en effet qu'en Martinique, et plus généralement aux Antilles, les grandes structures symboliques n'existent pas. Pas de mythe fondateur comme en Europe ou en Afrique, mais une perpétuelle négociation des valeurs collectives. Farouche défenseur de la créolité et de la fluidité des traditions, il s'oppose donc au principe de l'authenticité des origines, car toujours ambigu et insaisissable. Je vais à présent vous lire un extrait de Texaco, Sérénade du malheur. Ninon voulait descendre travailler à l'usine. Lui, Esternome, ne voulait pas. Alors Ninon lui faisait une vieille tête. Elle allongeait la bouche et battait des paupières quand il croisait ses yeux. La nuit, dans la cabane, elle se couchait en sorte d'être à 7 mornes de lui. Il restait alors raide comme un lolo de noces. Il devait l'accueillir comme on fouille une igname quand la terre n'est pas molle. Pendant qu'il moulinait, elle chantonnait n'importe quel la-la-la, histoire de lui montrer qu'il n'avait pas son âme. Et pire, il avait beau lui porter ce qu'il faut, Ninon dédaigna les promesses, ni tétée gonflée, ni musique dans le ventre. Chaque mois, elle exposait sa rosée rouge de vide et l'humeur pas très bonne qui fonctionnait avec. Mon esternum attendait que ça passe. Puis lui remettait ça, de force, comme pour prendre un lambi au fond d'une conque épaisse. Il pensait, comme d'ailleurs tous les hommes désireux d'accorer une amour vagabonde, qu'un négrillon l'occuperait assez pour déplumer l'envie d'un envol vers l'usine. Mais au lieu d'un négrillon, surgissait l'ondée rouge, la mort rouge, les lanières de coton à laver, à étendre, à laver, à étendre. Mon esternum les décomptait comme des marges d'un calvaire. Un peu plus loin. Le destin est comme ça. Il bat souvent des tambours sans sonnette. On ne le voit pas venir. Du fait, quand mon esternum vit surgir l'isalope, le chien à deux bretelles ravisseur de Ninon, il ne ressentit rien et l'accueillit en joie. C'était une sorte de nègre joli comme une image. Il avait les mains fines, une voix de tralala, des yeux de feu et, patate pistache, disait mon esternum, un banjo ou bien une mandoline. Ce chien-fer investit le quartier en pleine nuit de pleine lune, comme crapaud envoyé, porteur d'un maléfice. Alors que les chrétiens dormaient bien comme il faut, l'énergumène voletait de case en case. En donnant quoi ? En donnant sérénade. Les gens du quartier débouchèrent de leurs rêves avec un peu d'émoi. Les moins vaillants supposèrent une volée de zombies en bacchanal sur Terre. D'autres extirpèrent des haillons quelques flacons d'alcali, d'eau bénite ou d'éther. Mais, là même, tout souci de malheur s'estompa. Ils se comprirent l'objet d'une musique portée. Belle douceur de musique, elle charmait les gens. Elle les charriait au cœur de leur propre cœur, en grand arroi de sentiments, de langueurs sucrées, d'émotions enfantines qui enivraient à fond. Les loupiottes d'huile coco s'allumèrent dans chaque case. De chaque case émergèrent des figures de sommeil, puis des yeux de joie claire, puis des corps somnambules leur tend le musicien. Chacun lui suppliait de rester près de sa case un tac plus longtemps avant d'aller plus loin. Mais le musicien allait de case en case. On avait beau lui sortir la bouteille de tafia, lui longer une douceur, une confiture très rare, des bancs de bois précieux. Aucune case ne semblait pouvoir le retenir. Sauf, bien sûr, celle de mon esternum quand il vit sa Ninon sortie d'un bon sommeil. Le musicien était un bougre à yeux brillants mélancoliques. Il portait petit chapeau frangé. Sa voix, qui filtrait en français de sa bouche parfumée, était bourrée de dièse. Sa main envoûtait la mandoline en haut, l'ensorcelait en bas, et les cordes libéraient une mousseline de musique nouée comme l'herbe à lapin aux belletés de son chant. Oh mon Dieu, quelle histoire! Ces romans témoignent de sa volonté de retracer la grande histoire à travers la petite, en abordant des thématiques comme la lutte des Noirs antillais pour sortir de la colonisation et du monopole économique des béquets, les rapports complexes entre dominants et dominés lors de l'esclavage, l'homme dans la nature, mais aussi et surtout le rapport entre le réel et l'imaginaire. Sans être mystique, il considère que la fiction littéraire doit témoigner de la complexité du réel indicible. Une œuvre doit partir de l'impossible, sinon c'est une perte de temps. Ce qui fait de l'écrivain un guerrier de l'imaginaire. Après des études en France métropolitaine, inspirées par les travaux d'Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau rentre en Martinique et s'intéresse de près à la culture créole. Il publie son premier roman en 1986. Il obtient la consécration en 1992 en gagnant le prix Goncourt pour son roman Texaco, une œuvre vaste présentant la vie de Martiniquais sur trois générations. Et je vais d'ailleurs vous en lire un autre extrait. Mais le rêve de Nelta, c'était de bail partir. Partir, c'était son mot français. Il l'avait vérifié dans un dictionnaire. Pour s'en aller, Nelta avait tout essayé, mais rien n'avait pu aboutir. Il conservait son rêve intact dans sa grosse valise, pleine d'images ramassées tout partout. Il fallut quelques mois, que nous ayons atteint le cœur même du coco, pour qu'il daigne m'ouvrir cette gigantesque valise. Et là, de ses gros doigts soigneux, il me montra, durant de chauds dimanches après que nous ayons écrasé la cabane, ces images de forêts, de déserts, de cascades, de villes, de peuples. Son salaire devait financer son envol vers la totalité du monde. D'abord vers la France qui, comme pour nous tous, lui habitait la tête. Il rêvait du paquebot Colombie, s'imaginait maintes fois débarquant à Marseille. Souvent, samedi après-midi, plutôt d'aller vibrer au match comme les nègres d'ici là, il traînait ses grandes ailes enchaînées sur le port. Avec la connivence du gardien, il défilait mille songes sur la rouille des bananiers, la rutilance des paquebots immobiles. Quand un pétrolier surgissait dans la rade, charriant la gasoline au béquier des pétroles, Nelta m'emmenait dans les hauteurs pour contempler cette porte ouverte sur toutes les rives du monde. Je ne sais pas d'où provenait son goût pour le partir. Mais ce ne fut pas le seul bougre de quartier que je rencontrai élu par cette envie de tout voir, d'éprouver l'impossible, de se sentir disséminé dans l'infini du monde, dans plusieurs langues, dans plusieurs peaux, dans plusieurs yeux, dans la terre reliée. Patrick Chamoiseau participe également à l'écriture de nombreux films, dont Begin, Aliker, Nord-Plage ou encore Le Passage du Milieu. Il participe également à la création du Manifeste de la Créolité avec Jean Barnabé et Raphaël Confiant. Ce courant a un très grand retentissement, d'abord dans les milieux littéraires antillais, avec le ralliement relatif du Guadeloupéen Ernest Pépin et l'intérêt de l'haïtien René de Pestre. Je vous propose à présent une pause musicale avec le vieux Farka Touré, le fils d'Ali Farka Touré.
Thank you.
Ami d'Édouard Glissant, il cherche à développer avec celui-ci le concept de mondialité, en vue de traduire, sur le point de vue politique et poétique, une nouvelle conception du monde qui serait fondée sur l'ouverture des cultures, la protection des imaginaires des peuples, lesquels disparaissent lentement sous l'action uniformisatrice de la mondialisation.
La mondialisation, vous la voyez uniquement sous l'angle du libre-échange, du libéralisme ou du néolibéralisme économique. Et en cela,
oui,
vous êtes très pessimiste.
Il y a une réalité, je dirais, objective de la mondialisation, qui est un des moteurs de la mondialisation. Ça a été bien sûr d'abord la colonisation. Ça a été aussi toutes les accélérations technoscientifiques. Et puis, ça a été aussi la domination occidentale, quoi. Donc, ça c'est. Et l'autre élément déterminant et qui nous pose le problème central, c'est que c'est le néolibéralisme, pas la philosophie libérale, mais vraiment l'utilisation de l'idée libérale affectée à une mécanique économique, etc., qui aujourd'hui constitue l'énergie puissante et triomphante de la mise en relation des civilisations, des peuples, des espaces et des différents temps qui composent l'espace de l'humanité. Et ce néolibéralisme, qui est une sorte de barbarie nouvelle, crée un certain nombre de difficultés. Alors, pour s'opposer au néolibéralisme et contester la minoration de l'Afrique et puis cette domination occidentale, cette standardisation consumériste, etc., la première tendance a été de rejeter le monde, c'est-à-dire rejeter la mondialisation. On dit on ne veut pas de la mondialisation, on ferme les portes et les fenêtres, on retourne à nos traditions, nos frontières, nos pays, etc. etc. Bien sûr, la logique libérale a créé non pas des lieux de contact et de rencontre, mais des lieux de libre-échange. Et les lieux, c'est pas pareil. Dans la zone de libre-échange, on n'a pas véritablement de la rencontre. C'est Césaire qui disait dans le discours sur le colonialisme que c'était pas la meilleure. C'est vrai que dans le colonialisme, il y a du contact, mais ce sont des chocs, ce sont des mises sous relation, ce sont des choses qui ne sont pas de l'ordre de la rencontre. Donc on peut dire que d'une manière générale, les zones de libre-échange qui créent une circulation de capitaux, de finances, etc., ne créent pas véritablement le contact. Et lorsque le contact est établi, il y a plus une mise sous relation, c'est-à-dire une exploitation plus ou moins détournée ou avec des mécanismes plus ou moins archaïques et plus ou moins nouveaux qui fait que tout le monde n'en profite pas et que ça se fait dans un seul sens. Et contre ce refus du monde, qui était la tendance naturelle, bon, c'est la mondialisation, on se dit, mais la mondialisation, c'est le libéralisme, c'est la domination occidentale, c'est le libre-échange, c'est toute la standardisation consumériste, on rejette le monde. Et Glissant, il disait, non, au contraire, parce que si on ne se bat pas à l'échelle des capitalistes et des financiers, qui est l'échelle du monde, ça fait plus de 50 ans qu'ils ont... Ils sont passés à une autre échelle. Ils n'ont plus de nation, ils n'ont plus de drapeau, ils n'ont plus de langue, ils n'ont plus tous les vieux marqueurs identitaires, territoriaux. Ils n'ont plus ça. Ils sont véritablement à un stade de domination qui est vraiment transnational, translinguistique, transreligieux. Ils sont capables de tout transformer en marchandises et de faire du profit avec tout. Donc comment se battre contre ça? Est-ce qu'il faut revenir à l'ethnie, au clan, au territoire, à la tribu? Enfin bon, c'était ça le risque. Et la difficulté que nous avons, c'est s'opposer à un mouvement qui est d'ampleur triomphante et d'ampleur mondiale, sans renoncer au monde. Parce que, il me semble, et ça se discute, ben, il me semble que le choc colonial mis en œuvre par l'Occident, avait effectivement créé la mise en contact des cultures, des civilisations, etc. Et ce mouvement relationnel, qui n'était pas une mise en relation réelle, c'était une mise sous relation, sous domination, mais il y a quand même une mise en circulation. Et cette mise en circulation, elle a véritablement éliminé toute possibilité pour la plupart des pays d'accéder à cette échelle différente qui était une échelle relationnelle qui serait celle du monde. Et à partir de là, tout le travail que nous avons à faire, c'est de comprendre que
si dans cette mise en contact des civilisations et des cultures, il y a eu un phénomène qui est déterminant et qui caractérise notre modernité, qui est l'individuation. Les individus ont été éjectés des corsets communautaires symboliques. Aujourd'hui, nous sommes, en tant qu'individus, d'une extrême mobilité. Nous pouvons, d'une certaine manière, nous déplacer et échapper au dictat communautaire qui s'imposait. Dans une communauté archaïque, l'équation individuelle est à très très basse intensité. Dans la relation mondiale, qu'elle soit oppressive ou consumériste, etc., il y a quand même une possibilité élargie. On parlait de progrès et de possibilités. Un individu dans l'espace créé par le néolibéralisme est éjecté comme ça des déterminants communautaires, il se retrouve avec des potentialités inouïes en termes de réalisation personnelle, de choix personnels, on se coiffe comme on veut, on s'habille à part les standards commerciaux, etc. Mais bon, on est soumis à la mode, mais enfin, on a une très très grande liberté. Et ce processus d'individuation fait que le moteur le plus terrible, le plus déterminant dans la relation actuellement, la mise en relation du monde, c'est véritablement l'individu. Et cet individu-là, il est actuellement dominé par l'idéologie néolibérale et il y a quelque chose qu'il nous faut considérer. Si d'un côté, il ne nous faut pas laisser le monde aux capitalistes, nous devons nous battre à l'échelle du monde, mais nous ne devons pas leur laisser aussi l'individuation parce que très souvent, on a eu l'impression que l'individualisme, c'est-à-dire penser à soi, l'égoïsme, le renfermement sur des valeurs personnelles, le manque d'implication militante, la désaffectation des syndicats, des partis, tu vois, tout ce qu'on a connu comme sorte de mouvement qui nous permettait d'adhérer à de grandes idées, tout ça, ces miettes, etc. On s'est dit qu'il fallait lutter contre l'individualisme. Mais l'individualisme est une maladie de l'individuation. Et c'est justement l'esprit consumériste qui, dans ce processus d'individuation qui, à mon avis, était inéluctable, tôt ou tard, les individus allaient sortir comme ça des corsets communautaires et avoir plus de choix. Cet individualisme qui est la plaie, une des plaies contemporaines, est simplement une perversion d'un processus. Alors, toute la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est à la fois d'envisager notre éthique, c'est-à-dire comment nous organisons le vivre ensemble, qui est devenu un vivre ensemble complexe, avec une éthique qui permette de porter un soin tout particulier à l'individu. Non pas essayer de lui imposer du collectif, puisque le seul moyen que nous avions de vivre ensemble jusqu'à maintenant, c'était de disposer d'un corset symbolique collectif. Allez, voilà, l'individu, bon, on s'en méfie, il est potentiellement multiple, il est imprévisible, donc on le met dans tout un dispositif qui le contraint, qui lui donne les règles. Aujourd'hui, nous devons construire des sociétés multi-transculturelles, des espaces extrêmement mobiles, extrêmement fluides, où les individus font des choix personnels qui sont dominés peut-être par des standards de toute nature, mais qui font des choix personnels. Et plus l'individu s'affaiblit, plus le vivre ensemble devient problématique. Donc les politiques publiques aujourd'hui doivent porter un soin tout particulier au processus d'individuation pour faire en sorte que celui qui se réalise en tant qu'individu, il doit le faire pratiquement sur sa propre expérience du monde, puisse le faire et atteindre un niveau de conscience et de connaissance qui permette le nouveau vivre ensemble. Et c'est ça toute la problématique contemporaine et tout le défi qui est le nôtre.
Chronique créole de Métropole. Après avoir soutenu le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, à sa création, il s'engage aux côtés du Front de Gauche aux élections européennes de 2009. Revenons sur quelques œuvres de Patrick Chamoiseau. En 1986, il publie son premier roman, Chronique des Sept Misères, où il raconte l'expérience collective des jobbers et étale son invention d'un nouveau style linguistique, un langage hybride accessible aux lecteurs de la métropole qui contient néanmoins les valeurs socio-symboliques du créole, la provocation et la subversion. C'est par son troisième roman, pourtant, que Chamoiseau éclate sur la scène internationale. Dans Chronique des Sept Misères, son œuvre dépeint les traits de la culture populaire martiniquaise, celle des petites gens et de leurs combats. Chronique des Sept Misères évoque le triste destin des jobbers, hommes à tout faire sur les marchés de Fort-de-France, dont la présence se fit de plus en plus rare avec la perte d'influence de ces mêmes marchés. Cet ouvrage déplore la disparition d'une créativité qui alimentait l'identité créole et dénonce l'acculturation du peuple martiniquais, largement due à la départementalisation. Ce roman est témoignage d'une ère de l'imparfait. Il se divise en deux parties distinctes, inspiration et expiration. L'énonciation est assurée par un jeu non pas individuel mais collectif. Sa parole est celle de ses compagnons d'infortune, les jobbers. Une lignée professionnelle datée de son âge d'or à son âge mort. Ce mouvement binaire du roman décrit la chute, vie et mort d'un métier créole. L'action du roman se centralise sur un monde vivant, le marché foyalé. Une fresque de personnages tous atteints et éteints par le démon béton de la modernité.
Ma question est justement, puisque vous avez abordé plusieurs fois le niveau de conscience des êtres dans la société, et dans une société où aujourd'hui on s'appuie sur le principe de la démocratie, comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire en sorte que les personnes qui gouvernent ou qui dirigent soient donc des personnes qui aient un niveau de conscience assez élevé pour justement aider à résoudre nos principes, nos difficultés dans cette société actuelle, puisqu'on voit quand même à l'échelle de notre société actuelle les dégâts que peuvent avoir différentes politiques parce que justement ce niveau de conscience est des fois ou semble être assez faible.
Si vous pouvez répondre de façon concise, on arrive vraiment à la fin, mais vraiment est très courte.
Oui, moi je pense que le problème auquel nous sommes confrontés, puisque la démocratie, qui est bon, le moins pire des systèmes, la démocratie fait le pari de l'individu. Donc c'est un individu qui, en pleine conscience, en pleine connaissance, avec un niveau, critique acceptable, va faire des choix. Et ces choix vont déterminer des élections, des élus, une politique. Quand vous avez un affaissement de toutes les assises mentales de l'individu, qu'il est réduit à être un individu consommateur, qu'il perd un peu un certain nombre de, j'aime pas ce terme, hein, il perd un certain nombre de valeurs et l'éthique est un peu faible. Mais qu'est-ce que la conséquence immédiate, c'est que tout le personnel politique se met à ressembler à cet individu diminué et on a à la fois une dislocation des partis, une dislocation de la pensée politique et puis des élections qui sont complètement imprévisibles, erratiques et sidérantes. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Et pire, vous avez dans pratiquement toutes les démocraties du monde, vous avez une sorte de dérive autoritariste simplement parce qu'on a le cœur du système qui est affaibli. Et c'est toute la réflexion que nous devons aujourd'hui menée, et c'est pourquoi j'accorde une très très grande importance aux politiques culturelles, il nous faut véritablement faire en sorte que les individus récupèrent, en plus avec tout le dispositif numérique, les réseaux sociaux reflètent l'affaissement d'un individu. C'est les choses les plus terribles, les plus merdiques qui ont de la circulation, c'est le cerveau reptilien qui se met en action avec cette possibilité qu'a l'individu de s'exprimer, d'intervenir, etc. C'est la partie basse aujourd'hui qui est active. Donc comment faire en sorte que tout ce système numérique soit mobilisé autour d'un individu dont on aurait élevé le niveau de conscience, de connaissance, et qui aurait constitué non pas une morale ou non pas des valeurs, parce que les valeurs peuvent être meurtrières, mais véritablement une éthique complexe. Et c'est ça le grand défi. Restaurer par le soin porté à chaque individu, et ça c'est au niveau politique, au niveau éducationnel, au niveau universitaire, faire en sorte que chacun puisse disposer très très rapidement d'un niveau de réalisation optimal. Et à ce moment-là, tout se restaure naturellement. Ce qui fait que les hommes politiques d'aujourd'hui et la déliquescence des partis politiques et la déliquescence de la pensée politique est liée directement à l'affaissement du processus d'individuation et à sa perversion en individualisme consumériste.
Par la suite apparaît son deuxième roman Solibo Magnifique en 1988, livre qui développe les thèmes de la recherche d'une identité martiniquaise par les pratiques culturelles du passé. Le créole, Patrick Chamoiseau en a fait le support vivant de la souvenance d'hier et de l'espérance en demain. Support littéraire qui véhicule une identité. Le créole se fait matrice insulaire des imaginaires, un liquide amniotique, un drapé sensitif des mots. Cette mission d'expression est revendiquée par la créolité, notion littéraire fondée par un trio actant-pensant, Patrick Chamoiseau lui-même, Raphaël Confiant et Jean Bernabé. Dans leur éloge de la créolité, sorti en 1989, ils souhaitent la mise à jour de la mémoire vraie, fournir quelques balises dans la nuit. La mémoire devient enjeu du créole révélé comme témoin des mouvances et porteur de la conscience caribéenne. Les éléments autobiographiques de son enfance sont présents dans la trilogie Une enfance créole, comprenant En temps d'enfance 1990, Chemin d'école 1994 et À bout d'enfance, sorti en 2005. Par créolisation, Patrick Chamoiseau entend la notion de processus identitaire au-delà des métissages biologiques et culturels, car ce processus engage la mobilisation du magma antillais et la perception monde. Une première étape est la réintégration de l'Afrique de la négritude, démarche réflexive de Césaire. Ensuite, la démarche de la créolité appelle à la totalité monde, ouverte et offerte. Cette totalité est épanouissement de l'être créole pour l'expression de son équation, c'est-à-dire de sa complexité.
Pensez-vous que le concept de négritude tel qu'il a été développé par Aimé Césaire puisse être transposé à d'autres terrains de lutte contre les discriminations ?
Oui, c'est-à-dire que Césaire lui-même l'a fait. Hein. Bon, quand on l'a critiqué sur la racialisation de sa résistance, en fait, le nègre a été inventé par le blanc. Lorsqu'il a fallu mettre en place la traite des nègres, c'est-à-dire une déshumanisation industrielle de millions de personnes, que ces personnes étaient à peau noire, donc il y a eu tout un discours qui a inventé le nègre, qui n'est pas un homme, qui est un demi-homme, qui est enfin bon, l'Afrique qui est un lieu de sauvagerie, etc. Donc on a fabriqué un nègre qui n'existait pas dans l'Antiquité. Les Égyptiens, les trucs, hein, ils parlaient de barbares, mais ils ne racialisaient pas les différences, etc. Donc la race, le nègre, apparaît au moment de la colonisation et surtout au moment de la traite des nègres où il fallait justifier cette horreur qu'a été la mise en esclavage de millions de personnes. À partir de là, Césaire, lorsqu'il apparaît, il va ramasser le mot nègre qui était une insulte, hein, il va en faire un soleil, c'est-à-dire on dit ouais, ma négritude, c'est ceci, c'est cela, et ça a fait du bien à des millions de personnes. Bon. Après, il a fallu complexifier un petit peu. Hein. D'abord, tous les nègres ne sont pas pareils. Il y a les nègres américains, il y a les nègres caribéens. Mmh. Est-ce que ce sont encore des Africains ? Non, ce ne sont plus des Africains parce qu'ils ont connu d'autres réalités anthropologiques. Il y a eu des métissages de culture, d'imaginaire et même des métissages de logique. Enfin, il y a une complexité qui nous a permis de relativiser cette question de la négritude pour examiner les questions de créolisation, de relations. Et à partir de là, Césaire a un petit peu réagi en disant « Oui, mais aussi on peut considérer que, d'une certaine manière, tous les opprimés, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont exploités sont des nègres. » Et pourtant, c'est pourquoi on a eu au Canada ce mouvement des nègres blancs d'Amérique, c'est-à-dire ceux qui sont les moins bien traités devenaient les nègres. Rimbaud va s'écrier « Je suis un nègre », etc. Donc on voit qu'on pouvait étendre cette notion de personnes dominées, exploitées, chosifiées, déshumanisées, en tout cas maltraitées, à toutes les souffrances du monde et à partout où on souffre, on est nègre. Bon, ça, c'est évident qu'on peut aujourd'hui l'envisager. Et la négritude est encore utile aujourd'hui dans la mesure où le phénotype le plus déprécié dans le monde, c'est le phénotype nègre. Vous prenez n'importe quelle société, du nord au sud, que ce soit un pays composite comme le Brésil, etc., ou même à Cuba, vous verrez que ce sont toujours les nègres qui sont au bas de l'échelle, qui sont les moins bien représentés au niveau politique, etc., etc. Donc la vieille, je dirais, damnation qui est apparue pendant la traite esclavagiste continue encore aujourd'hui. Donc il faut, d'une certaine manière, conserver l'esprit de la négritude pour restituer l'humanité et le droit à existence pleine et entière à tous les nègres du monde.
Revenons-en à la créolité. Déjà, Raphaël Confiant reconnaît la difficulté de cette écriture désignée comme oraliture. L'écriture en français est un plaisir, l'écriture en créole est un travail, car l'auteur créolophone est obligé de construire son outil. L'écriture du créole se propose alors comme ouverture de création. Patrick Chamoiseau a confié ses questionnements de l'écrire dans « Écrire en pays dominé » sorti en 1997. Nous en reparlerons un peu plus tout à l'heure. C'est en 1992 que Patrick Chamoiseau sort son roman « Texaco » chez Gallimard. Prix Goncourt, je l'ai déjà dit. Texaco explore l'histoire moderne de la Martinique. Ce roman revisite l'épopée du petit peuple martiniquais à travers le récit du combat des habitants d'un bidonville situé en bord de mer, près des raffineries de Fort-de-France. Il évoque ainsi le combat pour la sauvegarde de certains modes de vie authentiquement créoles. Texaco est reconnu comme l'une des œuvres antillaises majeures de la fin du XXe siècle. Chamoiseau interroge également les formes d'expression créole, prenant acte de l'existence d'une culture créole essentiellement travaillée par l'oralité. Il envisage le développement d'une littérature orale pour laquelle l'écrivain, héritant des tournures orales et des conteurs créoles, aurait pour rôle de s'ériger en marqueur de parole. Texaco, grande épopée, raconte les souffrances de trois générations, d'abord sous l'esclavage, puis pendant la première migration vers l'Anville, enfin à l'époque actuelle. Patrick Chamoiseau travaille à une reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. L'auteur voit en l'esclavage un mélange accéléré dont l'aboutissement est cette identité créole. Il investit ainsi son espace de cette histoire, parce que ces trois siècles de chaîne ont déshumanisé, dépersonnalisé, dépossédé d'elles-mêmes des générations. Cette notion de génération, de traversée des temps, se matérialise dans le roman Texaco. Il évoque sa démarche littéraire et son itinéraire artistique dans l'essai « Écrire en pays dominé », dont je vous lirai un extrait juste après cette autre interview.
C'est-à-dire, les influences peuvent être déterminantes. Un tel peut être absolument passionné par toute la spiritualité indienne, tel autre plus la spiritualité chinoise. J'ai des amis qui sont des experts en culture amérindienne. Enfin bon, il y a de tout. Et chacun, en fonction de sa sensibilité, de ses rencontres, de son développement psycho-affectif, va élaborer quelque chose qui lui permettra de mener son expérience. Et son expérience sera précieuse pour nous parce qu'elle va nous aider à construire notre propre expérience. Mais il n'y a pas un syncrétisme qui serait donné à tous. Par contre, il nous manque des outils. Hein. Moi, je souffre beaucoup d'encyclopédie mondiale. Il nous faut une histoire mondiale. Toutes les histoires que nous avons, ce sont des histoires nationales. La lecture que nous avons de l'évolution du monde est encore une lecture occidentale. C'est l'Occident qui a le plus écrit, etc. Quand je cherche des références africaines, j'ai du mal à les trouver. Dans le merveilleux occidental, les gobelins, les gnomes, les trolls sont beaucoup plus connus que la merveille chinoise, la merveille amérindienne, et qui pourtant sont magnifiques. Donc on a un problème en termes d'équipement et d'outils. Donc il faut produire. Il faudra produire cette nouvelle histoire du monde, histoire des civilisations du monde, cette vision des philosophies du monde où on n'a pas l'impression que la Grèce a tout pensé, tout organisé, etc. et qu'on aille chercher un petit peu ce qui s'est produit dans d'autres communautés et qui ont permis des avancées de l'esprit d'une manière différente que celle des Grecs. Enfin bon, on a ce manque d'outils, mais c'est l'imaginaire de la relation qui peut rendre nécessaire et qui peut produire ce genre d'outils. Donc je pense que dans les années qui viennent, ça devrait apparaître. J'ai vu un livre de Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France. Bon, la France est encore là. Non, ce qu'on a besoin, c'est d'une histoire mondiale. La France, on s'en fout. Ce qu'on aimerait, c'est comment tous ces pays ont évolué, comment le monde s'est constitué, du point de vue pratiquement de tout ce qui existe. Et ça, ça reste à venir.
Écrire en pays dominé. La lutte contre les dominations d'à présent peut n'être pas spectaculaire. Le symbolique creuse ses actes les plus profonds. Les houles psychiques, ses assauts les plus larges. Je n'étais pas sûr de vaincre, il n'y avait rien à vaincre, mais, dans le système mortifère où mon pays s'était échoué, je veillais à augmenter l'imprévisible, ce grand fourrier des entropies. L'écrire irradie dans son milieu ambiant. Quelque chose dans les dominations est pressé, modifié, et j'espère affaibli, en d'infimes variables dont l'extension est sans limite. Le cahier d'un retour au pays natal, lu par peu d'Antillais, bouleversa ainsi, en positif et négatif, notre imaginaire du nègre, de l'Afrique et du colonialisme. Bouleversé dans l'obscur comme la parole fondatrice du conteur, j'allais de quatre chemins en quatre chemins. Les ouvrages de Fanon répercutaient d'inépuisables échos, glissant m'habitaient et, d'année en année, prenaient des amplitudes. Ces cohérences insoupçonnées révélaient leurs vertus, ces visions prophétiques du passé, abreuver mes errances, ces divinations ouvraient à de possibles rebonds et aux éveils de nombreux livres. Ô livre, vieux bougre compère. Chez Patrick Chamoiseau, la connivence du français et du créole donne naissance à une écriture forgée et chargée de créole, façonnée d'échos, de sons et d'images pour une perception infinie de cet espace de création. Il ne s'agit pas simplement de créoliser le français, mais bien de tenter d'approcher l'oralité créole du conteur, sans hiérarchie stérile des langues. Il publie son roman « L'esclave vieil homme et le molosse » avec un entredire d'Édouard Glissant chez Gallimard en 1997. Un homme sans âge fuit l'aliénation de l'habitation sucrière, se laissant râler au sursaut de la décharge, besoin impérial et violent que tout être humain captif d'un autre ressent. À sa poursuite, un molosse infernal. dressé par le maître pour rattraper les fuyards et leur couper l'envie de recommencer. Et je vais vous en lire un extrait. Si les esclaves craignaient les chiens, ils étaient épouvantés par le molosse. Son corps massif comme un morceau de soufre, ses muscles noués comme des bouillons de lave, sa gueule sans baptême, le regard sans vision. Le plus épouvantable, c'était son silence. Pas d'aboiement, pas de grognement, mais pas de calme ou de sérénité. Juste, au-dessus de son souffle suspendu, le regard scrutateur, aiguisé, effilé, coupé, tranché, avec lequel il suivait les vivants qui longeaient son grillage. Quand un chien créole s'échappait, qu'il venait rôdailler aux abords de sa cage, le molosse ne se levait même pas. Le rôdeur se couchait face en l'air, gémissant, sa soumission offerte au seul remuer des oreilles de ce monstre. Le maître Becquet le nourrissait de manière étrange, surtout secrète, de la viande palpitante, des os à la moelle enflammée, des charnelleries sanguinolentes qu'il malaxait lui-même dans un crâne de guerrier caraïbe. On dit qu'il y broyait des guêpes, du piment, des têtes de colibris, des graisses de serpents, des poudres d'eau d'hommes enragés, des crins de chabine folle, des cervelles de maman Balaou et des os de bécune mère. Le molosse engloutissait cela avec moins d'appétit que de volonté sombre. En quelques mois, il retrouva cette force incroyable que le bateau lui avait épuisée. Une chair encore plus compactée. Des muscles déliés comme des câbles quand le maître, au balancer d'une corde, l'emmenait courir durant des heures. Le maître, du haut de l'alaisan, gardait trop de galop pour simplement rester à sa hauteur. Et le cheval, bien indisposé d'avoir cela auprès de ses sabots, en perdait un restant de joie de vivre. On se demandait à quoi pouvait servir ce monstre. On eut bientôt la réponse. Il y eut, comme presque tous les mois, un jeune nègre certain d'être plus malin que ses prédécesseurs et qui reçut tout soudain la décharge. Je vais vous parler de la décharge. Les vieux esclaves connaissaient cela. C'était une mauvaise qualité de pulsion vomie d'un endroit oublié, une fièvre fondamentale, un sang caillé, un désursaut pas bon, une ailée vibrante qui vous déraillait raide. On allait désarticuler par une impétueuse présence en soi. La voix prenait un autre son. La démarche sourlait grotesque. Une vibrée religieuse vous tremblait les paupières et les joues. Et vos yeux portaient les marques de feu, coutumière aux dragons réveillés.
Quelle est la place de la femme dans la société antillaise ?
Non, la place de la femme dans la société antillaise et le fait que tous mes romans sont construits le plus souvent autour des femmes, c'est que du fait de l'esclavage, il n'y avait pas de famille antillaise au sens, je dirais, nucléaire. C'est-à-dire il n'y avait pas papa, maman et les enfants. Le maître était propriétaire du noir, esclave, de la femme esclave et des enfants. Mmh. Le maître pouvait violer la mère, enfin violer la femme, déplacer le père, le vendre les enfants. Enfin bon, très difficile de faire famille dans un contexte esclavagiste. Ce qui s'est produit, donc très rapidement, comme il fallait élever et éduquer les enfants et les protéger, les femmes se sont organisées, on a eu des communautés de femmes autour des enfants. La mère, la grand-mère, les sœurs se réunissaient et s'occupaient des enfants. Et l'homme est resté beaucoup plus périphérique. Du point de vue psychanalytique, les psychanalystes expliquent aussi que la fonction paternelle, qui est une fonction d'autorité visant à dissocier, éviter la fusion entre l'enfant et la mère, cette fonction paternelle était impossible pour l'homme esclave, dans la mesure où la fonction paternelle était symboliquement assumée par le maître, qui lui pouvait intervenir à tout moment, pour se faire ce qu'il veut sur tout le monde, sur la femme, sur les enfants, etc. Donc impossible d'être père. Donc, ce qui fait que les hommes sont restés en périphérie de l'organisation des femmes et des enfants. Et ça a donné un type de familial qui s'appelle la famille matrifocale, c'est-à-dire focalisée autour de la mère et des femmes. Et dans toutes les familles antillaises, dans toutes la Caraïbe et dans les Amériques, on a une culture matrifocale, c'est-à-dire des organisations familiales où les femmes assument à la fois la fonction paternelle et la fonction maternelle. Alors la fonction paternelle peut être assumée par la grand-mère et la fonction maternelle par la mère, mais ça peut être inverse. La fonction paternelle peut être exprimée par la mère et la fonction paternelle assumée par la grand-mère. Donc, ouais, donc c'était une complexité qui fait que les femmes sont devenues ce qu'on a appelé un potomitan, c'est-à-dire que quand il faut organiser le destin d'un enfant, l'évolution des choses, c'était les femmes qui étaient les plus déterminantes et les hommes restaient relativement périphériques. Mais ça n'a pas empêché que les codes machistes occidentaux se soient imposée aussi à ces sociétés-là, et que les codes occidentaux aient déterminé une approche nucléaire sur une structure matrifocale. Ce qui fait que, d'une certaine manière, les hommes ont bénéficié de plus d'éducation, plus d'école, plus de liberté, plus de possibilité de se réaliser en termes de commerce, d'études, de ceci, et que les femmes ont toujours eu cet empêchement, en tout cas cette charge des enfants, des responsabilités qui les a contraintes, sans compter que dans toutes les sociétés occidentales et dans le patriarcat, entre guillemets, occidental, fait qu'il y a des plafonds de verre partout concernant les femmes. Donc nous avons hérité ça, même si nous avons une culture matrifocale qui fait de la femme l'élément le plus déterminant quant à l'évolution de la vie sociale et des enfants, reste que la dynamique la plus porteuse concernait les hommes. Donc ça a déterminé à la fois, effectivement, que les politiques, les fonctions prestigieuses sont occupées par les hommes et que la sphère domestique et familiale soit occupée par la femme. Et ça qui et ce travail d'une certaine manière de faire sauter cette vieille structuration millénaire et ancestrale qui minore un petit peu la présence féminine, nous devons le faire autant que les sociétés occidentales ont à le faire aussi.
C'est la fin de cette émission. En plus de tous les ouvrages cités au cours de cette émission, je peux également vous conseiller Biblique des derniers gestes, Les 9 consciences du mal fini, ou encore son dernier ouvrage sorti au seuil, Le compteur, la nuit et le panier. C'était Chronique créole de Métropole.
Aquí todo el mundo habla. la Savoia. Si tu me vejo não sei, um abraço eu sorri, pediu minha mão, não quis dar e fugi.
Bahia,
terra da felicidade, Moreno, eu ando louca de saudade. Meu sinho do bom fim arranjou outro moreno igualzinho pra mim. Da Bahia, pediu-me um beijo, não me dei, um abraço, sorri, pediu minha mão, não quis dar e fugi.
Bahia,
terra da felicidade, Moreno, eu ando louca de saudade, meu senhor do bom. Arranjo outro moreno igualzinho pra mim.
Ai, amor, ai, amor, compadre, que a gente não explica, ai, amor, compadinho, ó, envenenado, ó, e correndo da vida, da vida.
C'est la nouveauté. La nouveauté du jour. Que des nouveautés sur Radio Campus. Tu connais pas? Normal. C'est la nouveauté.